BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Vincent Hugeux. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Grand reporter à l'Express, on le rappelle, auteur. En attendant le prochain, j'ai hâte, hein, il m'en a glissé un mot dans l'oreille tout à l'heure. On a toujours Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames sur les First Ladies africaines. En livre de poche, Pierre Servant, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Pierre Servant, grand spécialiste des questions militaires, des questions de défense, avec ce livre sorti il y a un mois, Les Présidents et la Guerre, les Présidents de la Ve République, 1958. 2017, en attendant le ou la prochaine, bien sûr. Alors oui, Dalian, bien sûr, je vous en parlais, à l'extrême nord de la Chine, dans le golfe de Corée, tiens donc, justement, la Corée, avec la mise à flot du deuxième porte-avions de la marine chinoise. Porte-avions fabriqué entièrement dans ses propres chantiers navals. Le premier porte-avions, il avait été acheté à l'Ukraine il y a presque 20 ans. Alors Pierre Servant, en termes de technologie, on a sûrement vu mieux en termes de porte-avions. Parce que quand même, ce qu'il faut dire aussi, c'est important, les pays qui savent fabriquer leurs propres porte-avions, ils sont quand même extrêmement rares dans le monde, bien sûr. La Chine, qui est une vraie boulimie, pour construire des navires de guerre, des sous-marins, des frégates lance-missiles, des navires ravitailleurs.
Oui, c'est vraiment un changement stratégique qui a été opéré il y a quelques années et accéléré en 2015 avec un livre rouge sur la défense, où on voit très clairement que la Chine tourne le dos à une armée de terre pléthorique qui existait sur le territoire national, qui correspondait à cette volonté en quelque sorte de défendre le territoire national, avec une particularité, c'est que les généraux de l'armée de terre, les généraux chinois, étaient plus connus pour être des gestionnaires de boîtes de nuit, voire de maisons un peu fines,
ah bon,
que pour être des stratèges. Et donc, 2015, la Chine réduit considérablement le format de l'armée de terre et bâtit ce qu'on appelle une armée de projection, notamment maritime. Alors, elle vient de loin, elle n'est pas encore arrivée à maturité. Le porte-avions qu'on a vu avec cet étrange tremplin en avant en fait, c'est parce qu'il ne maîtrise pas le catapultage permet d'avoir des plateaux à l'horizontale et de projeter les avions.
C'est pour ça que je disais qu'on a vu mieux. Et puis même la longueur du porte-avions, qui finalement va le confiner quelque part dans les mers de la région. Il pourra pas se projeter trop loin quand même.
Hein. Voilà, en plus il est à propulsion classique, pas nucléaire.
Diesel, ouais.
Et par ailleurs, le fait d'avoir un porte-avions court avec ce système de lancement fait que les aéronefs, les avions de combat de l'aéronaval qui vont être projetés, sont obligés de réduire et l'emport de carburant et l'emport de munitions, parce qu'il peut pas être trop lourd pour ce système de décollage. Néanmoins, c'est vraiment un changement majeur. Et il y a des plans. On sait que les Chinois travaillent sur des porte-avions de nouvelle génération, ils n'y sont pas encore, avec en fait deux ponts d'appontage et de décollage. Alors c'est des projets qui peuvent paraître fous, mais ça donnerait la possibilité d'avoir à la fois le catapultage d'avions qui partiraient à l'offensive et la récupération avec des systèmes de brins comme sur les porte-avions modernes aujourd'hui. Donc sur les plans que j'ai vus, c'est assez...
Ça existe déjà, ça ?
Non, c'est dans les cartons, visiblement, des Chinois.
Non, mais ailleurs, dans d'autres marines,
non plus, ça n'existe nulle part, ça n'a pas été fait, parce que c'est assez compliqué, il faut gérer à la fois l'appontage et l'écollage, mais j'ai vu, et ce ne sont pas des documents classifiés qui ont été volés, mais j'ai vu ces projets-là. Donc il y a vraiment un changement majeur dans la stratégie, et en fait, vous l'avez répété, il y a à la fois l'ensemble de la marine qui est renforcée, parce que très souvent, en France, quand on parle du Charles de Gaulle, en disant le Charles de Gaulle a appareillé, en fait, on commet une petite erreur. C'est pas le Charles de Gaulle, c'est le groupe aéronaval qui bouge.
Tout ce qui l'entoure.
C'est le porte-avions, et vous avez sous l'eau, sous-marin nucléaire d'attaque, sur l'eau, avion, bâtiment ravitailleur, frégate, etc. Et donc la Chine commence à construire cela, et après il faut savoir opérer et le déplacer. Mais c'est un changement majeur, et ça n'est pas totalement rassurant. Ça montre bien que nous rentrons pour plusieurs décennies dans des changements stratégiques majeurs avec des nouveaux acteurs, et que nous sommes donc vraiment au début d'une ère nouvelle et c'est ce qui va s'imposer, je dirais, en France pour le prochain président de la République notamment.
Et sur fond évidemment de revendications territoriales dans la région. Hein, c'est vrai, Vincent Hugeux.
Tension en mer de Chine méridionale. Notons d'ailleurs au passage que ce lancement est évidemment spectaculaire, avec champagne et ruban rouge, mais que pour équiper Ce porte-avions ait mené les essais en mer, il faudra grosso modo 2 ans,
d'après les 2020 experts. Exactement.
Cela dit, effectivement, la Chine prétend et aspire à jouer en première division. Il ne s'agirait que du premier sous-marin, donc d'une série, dont on vient d'évoquer les caractéristiques.
Premier porte-avions,
ouais. Inédite, porte-avions, bien sûr. Mais ça s'inscrit aussi dans une ambition que reflète l'effort budgétaire considérable de la Chine en la matière. Songez quand même qu'en 15 ans, le budget de la défense chinoise, dans le contexte que Pierre décrivait, a été décuplé. Bon, cela dit, encore une fois, une aspiration, une volonté, une ambition, mais on est encore très très loin,
des
États-Unis.
Ben voilà, je vais donner quelques chiffres, Vincent Huge, justement, parce que c'est vrai que le budget de la défense chinoise ne cesse de progresser, plus 7% en cette année. On en est seulement à 150 milliards à peu près de dollars, c'est-à-dire 4 fois moins que les États-Unis. Les États-Unis qui ont 10 porte-avions quand la Chine en a que 2, et surtout les États-Unis qui ont 600 bases militaires dans le monde, à l'étranger, quand les Chinois n'en ont qu'une,
c'est Djibouti, chez vous, sur le continent africain. D'une base américaine et d'une base française fort connue.
Donc l'idée, c'est de rattraper son retard. Et puis, question de statut aussi, pour la Chine, Pierre Servan.
Absolument, question de statut, apanage de puissance, et puis tout ça s'inscrit, vous l'avez souligné, dans une, comment dirais-je, expansion des marines de guerre du monde entier.
Ah bah c'est ça, voilà, de façon générale, j'ai l'impression qu'on assiste à un réarmement naval général, la marine chinoise, on pourrait parler de la marine indienne, de la marine russe, et puis alors, un petit peu plus loin, sur un continent dont on ne parle pas souvent, notamment dans 7 jours dans le monde, l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Mexique, regain d'activité militaire navale, Pierre Servan.
Absolument, et je rajouterai 2 autres pays dans votre série qui est parfaite, l'Australie et l'Égypte d'Al-Sissi.
Tout juste.
Pourquoi je les cite? Parce que ce sont 2 pays qui ont acheté des bâtiments sous-marins pour les Australiens.
Ça fait un empile pour les Australiens,
exactement. Ouais. Sous-marins français. Et Al-Sissi, donc le raïs égyptien, qui a racheté les 2 BPC, bâtiments de projection et de commandement, qui sont des bâtiments tout à fait...
C'était prévu pour la Russie au départ, avant qu'on casse le contrat.
Donc ça montre bien qu'il y a dans les grandes, moyennes ou moins grandes puissances une réflexion sur la stratégie maritime. Et c'est ce sur quoi l'amiral Prazuk, qui est le chef d'état-major de la marine française, insiste en disant, demain, un certain nombre de tensions et de conflits ou de volonté de contrôle d'accès, et Vincent Hugeux a rappelé la mer de Chine méridionale, elle est stratégique notamment parce que c'est un point de passage commercial absolument fondamental. Donc qui tient la mer tient le reste. Donc on rentre dans cet univers-là.
Juste une petite question à l'autre.
Et pardonnez-moi, avec une question pour le prochain président.
Ah bah c'est ce que j'allais dire, la question posée à l'auteur des présidents et la guerre,
oui.
Le ou la future titulaire de l'Élysée, la question clairement c'est est-ce qu'on lance ou pas le chantier d'un deuxième porte-avions.
Voilà, question se pose, elle avait été tranchée par Nicolas Sarkozy, la question se posait de savoir s'il fallait qu'on ait un second porte-avions à propulsion classique, on ne pouvait pas se payer un propulsion nucléaire. Là, on a le Charles de Gaulle qui est immobilisé en travaux
grande révision.
Assez fondamentaux de maintenance pour apparemment 16 à 18 mois, et ça retire à la France non seulement un instrument militaire, mais surtout un instrument majeur de gesticulation diplomatico-militaire. C'est pour ça que la Chine s'en dote, et donc le prochain président ou la prochaine présidente aura aussi cette question à trancher. En l'occurrence, un des deux a déjà avancé des éléments sur le fait de réfléchir à la construction d'un second porte-avions. Voilà. Mais donc, on est vraiment dans ce paysage-là aujourd'hui.
Vincent, on va revenir sur les tensions quand même autour de la Corée du Nord, qui célébrait la naissance de son armée cette semaine à coups de tirs d'artillerie assez dense, assez fourni également. Et alors que le bouclier antimissile américain commence à être déployé en Corée du Sud, justement. Nouvelle déclaration de Donald Trump jeudi soir, très intéressante. Alors oui, dit-il, un conflit majeur reste possible, mais cette fois, il semble privilégier une solution diplomatique, même s'il reconnaît que ça va être très difficile. Vincent, c'est quoi? C'est un changement de stratégie pour Trump ou pas?
Eh bien, c'est la préfiguration de ce que nous évoquerons dans quelques minutes par rapport au bilan de l'intéressé. C'est-à-dire qu'on affiche une sorte de volontarisme performatif par le verbe en disant « Attendez, on va régler ça et on le réglera éventuellement tout seul », dire sans la Chine, ce qui a évidemment été très mal perçu à Pékin. Et puis, il y a ce qu'on appelle la résistance du réel. Et on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Et maintenant, on revient au fond à un modus operandi assez traditionnel vu de Washington, c'est-à-dire pression certes, mais pour amener le partenaire rétif, et pour le moins Pyongyang en est un, à la table virtuelle des négociations.
On discute de quoi à ce moment-là aussi ? quand on se met autour de la table face à la Corée du Nord.
Bah, c'est pour ça que je crois qu'il a encore beaucoup à apprendre.
Bon.
C'est notamment le fait que rien ne peut se faire, que ça vous plaise ou non, sur ce terrain-là, sans une pression là, explicite véhiculée par la Chine, justement.
Bien sûr.
La Chine dont on dit, à bon droit, qu'elle commence à être un peu exaspérée par l'obstination frénétique de Kim à Pyongyang. Donc voilà, donc c'est vraiment l'exemple typique du choc, de la collision entre le dogme, en plus un dogme plutôt simpliste dans la version trumpienne, et le mur de la réalité.
En attendant, Pierre Servent, je le disais, le bouclier antimissile américain, le système THAAD, justement, déployé en Corée du Sud, qui énerve Pékin, justement, à quoi ça va servir?
Alors, c'est un système de missiles antimissiles balistiques. Hein, c'est haute, dans l'acronyme, vous avez haute altitude. Oui. Donc, c'est la capacité à intercepter des missiles balistiques porteurs, soit de charges nucléaires, soit de charges classiques extrêmement puissantes. Et donc, c'est couplé avec des systèmes de radars, des radars de trajectographie, c'est-à-dire qui permettent de savoir qu'il y a eu le déclenchement d'un tir de missile de l'autre côté de la frontière, qui va calculer le début de trajectoire, enfin, qui va calculer la trajectoire possible en fonction du démarrage, et qui va donc envoyer un contre-missile qui va faire exploser ce missile balistique. Mais alors le grand problème, ça avait été le même problème pour les Russes quand les Américains voulaient installer en Pologne, Tchéquie, des systèmes similaires, c'est que les Chinois évidemment considèrent que ça va amputer leur propre capacité de dissuasion puisque les Américains seraient à proximité pour intercepter cela. Et alors l'autre point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que disait Vincent Jeu, qui est très juste, par rapport au choc du réel, ce réel il est très compliqué en Asie. Parce que la partie psychologique des relations humaines, de ce qu'il y a dans la tête des Coréens du Nord comme du Sud, parce qu'il y a eu des manifestations contre les Américains et le déploiement du missile.
En Corée du Sud,
voilà,
bien sûr.
Surtout dans cette
sûr.
Période, une période de transition politique.
On est en pleine campagne électorale aussi en Corée du Sud.
Parce que la présidente
a été destituée,
destituée
par la justice. De corruption.
Tout juste.
Et que le grand favori de l'élection sud-coréenne qui aura lieu dans quelques jours, Moon Jae-in, qui est l'ancien patron du Parti démocratique, donc gauche modérée, avec une branche un peu anti-américaine, eh bien lui-même a dit, mais attendez, c'est très inélégant, pour le moins, puisqu'en fait, on me dit qu'il y a un système qui va être déployé, et qui sera d'ailleurs opérationnel à la fin de l'exercice 2017, pas demain matin, et j'ai pas mon mot à dire là-dessus.
Eh ben oui, et puis à propos de mot à dire, justement, il y a aussi les Américains, Trump, qui veut faire payer tout le monde, souvenez, avec le mur que les Mexicains devraient payer. Bon, là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il veut faire payer les Sud-Coréens. Ils disent, voilà, très bien, j'assure votre défense, mais vous allez juste me faire un petit chèque d'un milliard. Séoul lui a dit, désolé, mais non, on payera pas, hein, Pierre Servent.
Bah oui, voilà, on revient, on va en parler effectivement sur les 100 jours. C'est vraiment le phénomène Trump qui est tout à fait étonnant, parce qu'en fait, son logiciel, c'est un logiciel de développeur de l'immobilier, donc c'est de la pression
binaire.
Psychologique, binaire, un partenaire, je lui mets la pression, voilà, on s'engueule, on se traite de tous les noms, après on va au bistrot, on signe le chèque. Et alors, on le verra tout à l'heure, le nombre de pays que Trump s'est mis à dos ou à insulter en 100
cette
jours
semaine, le Canada, là,
est absolument
par exemple,
considérable. Voilà. Mais l'autre point je voulais apporter par rapport à la Corée du Nord, et je crois que c'est Dorian Malovic qui l'avait dit sur votre plateau.
Auteur de 100 questions autour de la Corée du Nord.
Voilà, journaliste à la Croix, très bon connaisseur de ces questions, et c'est pas simple de les comprendre, et notamment de plonger dans la psychologie. Et je crois qu'il avait dit que dans la façon que la Corée du Nord a essayé de s'affirmer par les essais nucléaires, enfin ces sortes, pardonnez-moi l'expression, de bras d'honneur qui est fait ici ou là, c'est aussi une volonté d'être reconnu comme un partenaire,
juste,
notamment
oui.
par les Américains.
Juste,
donc
oui.
c'est là où il faut voir comment l'entourage, qui a été légèrement épuré, on va en reparler certainement autour de Trump, peut introduire dans la tête de Trump des éléments de complexité, de subtilité, de gestion dans le temps. Voilà. Ce qu'il n'a pas compris, parce que quand il a le Chinois chez lui dans sa résidence privée et qu'il frappe en Syrie,
c'est
vraiment une insulte faite à son hôte que d'utiliser ce type d'outils militaires, même si moi j'ai applaudi la frappe, mais c'est très maladroit bien sur sûr. Le plan psychologique.
Alors,
par rapport aux Chinois.
Pour introduire justement eh bien, ces 100 jours de Trump, bilan justement, tiens un retour. Il n'avait pas fait parler de lui depuis son départ, justement il y a 100 jours, hein, de la Maison Blanche. C'est Barack Obama qui faisait un retour triomphal devant les étudiants de l'université de Chicago.
So, what's been going on while I've been gone?
Bah oui, il s'est passé quoi? Bah oui, il s'est passé juste l'arrivée d'un président américain bien connu depuis 100 jours, donc depuis le 20 janvier pour ses coups de semonce, pour ses coups de gueule, peut-être pour ses promesses qu'il remballe, pour ses revirements. Oui, Donald Trump, voilà, c'est le week-end des 100 jours. Tiens, justement, qu'est-ce qu'on retient de ces 100 jours? C'est quoi le bilan? Il promettait de secouer Washington, de tout faire bouger, Vincent Hugeux.
Oui, où est-ce qu'on en est? Les 100 jours, dans la version Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire cette marche triomphale depuis Golfe-Juan jusqu'à Paris, les biographes, les hagiographes du petit caporal appelaient ça l'envol de l'aigle. Ici, on est plutôt dans le laborieux décollage du busard. Et mettons-nous, l'exercice ne manque pas de sel, mettons-nous un instant dans la tête d'un électeur trumpolâtre.
Ouais.
Vraiment, un de
par
ceux
exemple, du
qui
nord-est
aurait
des États-Unis.
Vendu père et mère pour aller glisser son bulletin dans l'urne le jour J. Bon. Si je suis ce personnage-là, je suis absolument dépité. Je suis ravagé par la déception. Enfin, voilà, quelqu'un qui me promettait. Alors, on va en citer juste quelques-uns. Vous avez évoqué incidemment déjà. L'ALENA, on devait en faire un chiffon de papier. On s'aperçoit qu'on est plutôt entré maintenant dans une logique de renégociation. La COP21, l'accord de Paris, même topo. Non, on veut aujourd'hui renégocier. Le fameux mur du Mexique, qui devait être la solution miracle à tous les soucis d'immigration illégale venue du Sud, eh bien, à cause de ces impasses de financement, on dit maintenant qu'on va en rediscuter avec les partenaires en septembre prochain. Mais il y a plus symbolique encore, l'Obamacare.
Ah ben voilà ce que j'allais dire, l'Obamacare, la réforme de la santé, bien sûr.
Balayé d'un décret dont la rédaction était tellement grotesque qu'elle sera sans doute étudiée dans les écoles de juristes dans les années qui viennent. Donc, en réalité,
on pourrait rajouter, Vincent, justement, l'électeur de base des régions industrielles du Nord-Est à qui on a expliqué que la Chine, justement, était le responsable de tous ces malheurs, de tous ces maux. On annonce des guerres, des rétorsions commerciales contre la Chine. Et puis finalement, il y a une dizaine de jours, il dit quoi ? Ben non, la Chine ne manipule pas sa monnaie, et puis c'est embrassons-nous Folleville, c'est
donc,
ça.
Hein. Donc ça donne quoi ? Ça donne une tenaille d'impopularité qui est assez insolite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, son taux de popularité est aux alentours de 40%, ce qui est historiquement bas à ce stade d'un mandat américain. Pourquoi ? Parce qu'il est pris en tenaille entre ses adversaires résolus, et de ce côté-là, il n'a pas déçu, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il était conforme à cette version d'une gouvernance extrêmement frénétique, impulsive,
martial,
à coup de tweets binaires, comme je disais tout à l'heure. Bon, donc de ce côté-là, il n'a pas évidemment conquis un cœur ni une âme. Et de l'autre côté, eh bien, il déçoit une partie de son électorat. Et la vraie difficulté, c'est qu'il mesure aujourd'hui les limites de la méthode Trump. Mais est-ce qu'il y a un plan B ? Est-ce qu'il a un logiciel de substitution ? Je n'en sais rien. Et on pourrait ajouter au passage, au rang des déceptions, par rapport, encore une fois, au côté les dérobades du Matamor, l'Iran. Je ne citerai que cet exemple. L'accord nucléaire. Souvenez-vous de sa campagne.
Le
pire accord de l'histoire, avec toujours ce sens de la nuance qu'on lui connaît. Bon. La première chose que je ferai en arrivant à la Maison-Blanche, le déchirer. Il emploie l'expression en anglais. Et là, on s'aperçoit, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Il dit, ah bah oui, effectivement, la lettre de l'accord a été grosso modo respectée, mais l'esprit ne l'a pas été. Depuis quand, maintenant, on juge de la validité d'un accord au fait que l'esprit, qui est quand même une notion assez nébuleuse, ait été ou pas respecté ?
L'OTAN jugée obsolète, finalement, voilà, il va falloir venir rassurer les pays de l'OTAN à la fin du mois de mai, justement, lors du grand sommet de l'OTAN. Israël, dont on devait mettre l'ambassade à Jérusalem, et Netanyahou était genre un dieu vivant, il a pris ses distances avec le Premier ministre israélien. Et du coup, on sent Donald Trump obligé maintenant systématiquement de négocier avec les Chinois, négocier avec sa propre majorité, les Républicains, les démocrates, bien entendu, sur le financement du mur, sur le budget, justement. Plus dur que prévu de diriger les États-Unis, Pierre Servent ?
Oui, apparemment, il est en train de le découvrir. Il fait des déclarations en disant « Oh là là, c'est plus compliqué que ce que je pensais », formulé autrement. Alors, je pensais à Charlie Chaplin, et sans du tout comparer Donald Trump à Adolf Hitler, mais je vois bien Charlie Chaplin faire un début de film sur le début de Trump, arrivant dans le...
Alors, ça s'appellerait comment Ça ne s'appelle pas le dictateur quand même, Pierre Servent.
Quand Trump trompe.
Ah, quand Trump trompe, oui.
Enfin, en français, non. Alors non.
Ah oui, je ne sais pas comment ça va être. Oui.
Mais pour revenir à votre question, alors je souscris à tout ce qui a été dit, il y a un élément encore négatif supplémentaire, et puis un point positif que j'aurais quand même souligné. Le point négatif, c'est que vous avez une administration désorganisée, puisque le spoil system, donc le fait que l'ensemble de l'administration bouge, fait que vous avez un renouvellement de postes. Et tous les connaisseurs des États-Unis expliquent que vous avez tous les centres de réflexion, les think tanks, fournis fournissent les nouveaux conseillers qu'on trouve dans l'administration, les autres partent et les remplacent dans les think tanks à réfléchir, à travailler, etc. Donc il y a beaucoup de souplesse dans le système américain. Aujourd'hui, vous avez une administration gruyère, à trous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le ministre russe Lavrov a dit, mais il y a un problème, on ne sait pas à qui parler.
Ouais,
parce qu'il y a des... Voilà. Donc vous avez
entre Tillerson, entre Matisse, voilà. Et évidemment...
Non, mais même dans les étages intermédiaires.
Oui, mais j'entends, mais même voilà. Quand même, parce qu'on a vu quand même certaines dissonances au plus haut sommet
d'État. Oui, et en plus, vous avez eu des dégagements à niveau important. Voilà. Donc, ça pose vraiment un problème, c'est-à-dire que l'administration n'est pas équipée, tous les boutons de guêtre ne sont pas bouclés. Le point négatif. Le point positif, c'est quand même justement par rapport à ce que Vincent Hugeot disait sur le choc des réalités, le fait que les idéologues les plus fantasmatiques dégagent, comme Steve Bannon.
Il dégage du Conseil de sécurité nationale. Ouais. Il est quand même toujours dans les coulisses.
Oui, hein. Voilà. Mais il dégage comme membre permanent du Conseil de national de sécurité, là où des hautes autorités militaires n'y étaient pas. Le point positif, ça a été pour moi la frappe sur la Syrie, et c'est pour ça que je trouve que Barack Obama, enfin, moi c'est le système américain, mais moi ça me choque un peu, parce que Barack Obama porte des responsabilités assez lourdes dans le dérèglement international et dans l'incapacité à faire face à un certain nombre de choses. Et là, pour le coup, la nature de la frappe américaine sur la base aérienne syrienne, elle a été ciselée par les militaires qui l'entourent, qui sont pas du tout des va-t-en-guerre comme on croit. Je rappelle souvent que ces généraux américains, comme les Britanniques, les Français, sauf pour l'Irak, sont des généraux qui ont été colonels, notamment, ou jeunes généraux, sur des théâtres de guerre extrêmement durs. L'Irak, l'Afghanistan.
L'Afghanistan, justement, avec cette bombe, cette grosse bombe qui a été envoyée sur des caches de l'État islamique. On reparlera de l'Afghanistan dans 3 minutes.
Cette énorme bombe, c'est une bombe diplomatique. Parce que, notamment, elle pourrait avoir des effets sur le programme nucléaire de recherche coréen, qui est en sous-sol, parce que c'est une bombe qui détruit tout, non pas en percutant et en perforant les sous-sols, mais par un système de dépression terrible qui tue tout ce qui est en dessous.
Juste quand même, à mettre au crédit de Donald Trump, qu'est-ce qu'on peut y mettre justement? Parce que je veux pas qu'on soit trop critique sur ces 3 mois, sur ces 100 jours.
The economy is stupid. D'une certaine manière, il n'en est pas le responsable, il ne peut pas en revendiquer la paternité, mais les indicateurs économiques ne sont pas mauvais aux États-Unis. Et il va évidemment s'en prévaloir.
Et on voit la bourse qui, depuis son arrivée, caracole avec un Dow Jones au-dessus des 21 000.
Quand même. Nuance dans la nuance par rapport à la décision de bombarder après les attaques chimiques en Syrie. À un moment donné, imaginez que ça pouvait être le signal d'un changement de cap stratégique. Et là, on est plutôt dans une logique, en bon français, de one shot. C'est-à-dire, quelle était la dernière déclaration de Donald Trump à propos de Bachar al-Assad? C'est qu'au fond, son maintien ou pas n'était plus le problème. Donc on est passé de « on peut discuter avec lui » à « rien n'est possible avec lui » et on revient aujourd'hui, c'est-à-dire que l'impact qui aurait dû faire bouger les lignes, je ne suis pas du tout certain qu'il était exploité intelligemment.
Juste un tout petit mot, je pense néanmoins que l'astuce de cette frappe, c'est qu'elle crée la discorde chez l'adversaire ou chez l'ennemi. En l'occurrence, ça renforce les tensions entre les Iraniens et les Russes qui n'ont pas le même projet stratégique. Bachar el-Assad, qui lui est en position, je dirais, qui a une vision un peu totalitaire, comme souvent les Alaouites. Et donc, je pense
c'est le retour de l'Amérique aussi, clairement, après l'épisode Obama.
Ça met Moscou dans l'embarras, alors que Moscou était tout puissant sur ce théâtre.
Bon, 7 jours dans le monde, on revient vite sur BFM Business, à la télé, à la radio, à suivre donc l'Afghanistan, donc massacre dans une caserne perpétuelle par les talibans. Et puis la Syrie, tiens, l'offensive pour reprendre Raqqa est-elle lancée? On revient vite avec Vincent Hugeot et Pierre Servent.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, retour sur l'actu international de la semaine, toujours avec Vincent Hugeot, grand reporter à l'Express, auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Pierre Servent nous accompagne. Les présidents et la guerre 1958-2017. Oui, puisqu'on est à une semaine avant le second tour. C'est intéressant de savoir un peu comment les différents présidents de la République, depuis le général de Gaulle jusqu'à François Hollande, qui va bientôt quitter l'Élysée, ont réagi pour mener la guerre, pour mener des différentes actions militaires. Alors, je vous le disais, il y a quelques instants, en direction l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était vendredi, l'autre semaine, il y a 8-9 jours à peu près, l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis la chute des talibans en 2001. En plein jour de repos, en pleine prière, donc on était vendredi, un groupe terroriste d'une dizaine d'hommes, des talibans, donc revêtus d'uniformes de l'armée, a pénétré donc, dans une caserne de Mazar-e-Sharif, on est dans l'extrême nord de l'Afghanistan, et pendant 5 heures, ils ont exécuté une centaine de soldats, des jeunes soldats, des jeunes recrues de l'armée afghane. Témoignage horrifié, vengeur de ces officiers.
Ce ne sont pas du tout des musulmans. Un musulman ne brûlerait jamais le Coran, ne tuerait jamais un être humain ou ne détruirait jamais une mosquée. Nous allons poursuivre les ennemis de l'Afghanistan et venger la perte de nos amis qui ont perdu la vie dans cette attaque. Nous serons plus forts dans le futur.
Voilà, on dit que c'était l'une des bases les plus protégées, les mieux protégées dans le pays. Et pourtant, bien les talibans, bien ont pu y pénétrer. Ça montre quoi, Vincent Jeu? Ça montre quoi, la déliquescence de l'État, de l'armée, justement, qui n'arrive pas à se moderniser? Plus de la corruption, plus des manques de moyens. C'est ça l'Afghanistan de 2017?
Vous savez, il y a cette fameuse phrase, juin 36 en France, il faut savoir terminer une grève. Et on soumettra ça à la sagacité de Pierre Servan ensuite, il faut savoir terminer une guerre. Ce que montre l'Afghanistan, c'est qu'on n'a pas la clé de cette énigme-là. Plus techniquement, sur cette affaire, non seulement, comme vous l'avez dit à juste titre, le commando organisé est arrivé vêtu d'uniformes des forces spéciales afghanes, mais de plus, ils avaient des badges qui étaient en parfait état de marche. C'est-à-dire qu'ils pénètrent dans l'enceinte de cette immense base, 30 000 hommes, quand même, hein. Immense base, sans véritable difficulté. Bon. Ça dit aussi autre chose. C'est que, de sources américaines, on considère qu'aujourd'hui, la police, l'armée afghane et les supplétifs étrangers contrôlent à peu près 57% des districts du pays. Oh. Une grosse moitié. Bon. Et ça dit aussi autre chose. C'est que, on a aujourd'hui, grosso modo, 12 000 hommes sous la bannière OTAN, dont 8 400 Américains. Il y a depuis des années des plans de formation, des sessions, etc., etc. Et ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment le défi.
C'est un désaveu aussi, quelque part, pour les Américains, ou pas, ce qui s'est passé, ce massacre?
Comment ne pas le voir comme un camouflet cinglant, puisque dans le communiqué qui suit la réussite opérationnelle tragique, 135 morts au dernier des comptes de cette incursion, eh bien, vous avez une description parfaitement détaillée des moyens que vont utiliser les talibans dans les mois qui viennent pour éliminer les envahisseurs et, je cite évidemment leur lexique, leurs mercenaires locaux. Et on parle d'attaques conventionnelles et on parle d'attentats suicides de différents types, de l'intérieur, par retournement ou par infiltration de membres de l'armée ou de la police.
Leurs armes, par exemple, ils les achètent directement, parfois, aux soldats afghans, directement, Vincent Hugeux.
Ben c'est classique. Ah. C'est-à-dire que ou vous saisissez un arsenal après une opération réussie, ou effectivement, vous négociez. Voilà un peu l'état des lieux aujourd'hui. Mmh. Et moi, la question, évidemment, que très spontanément, j'ai envie de poser à quelqu'un comme Pierre en polémologue, c'est, puisqu'on a épuisé de cette manière les méthodes qui ne fonctionnent pas, comment on fait pour sortir de cette ornière, quoi?
Pierre?
Eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je suis allé plusieurs fois en Afghanistan comme officier et j'en ai retenu un proverbe qui dit, un proverbe afghan qui dit « Moi contre mon frère, moi et mon frère contre mon cousin, moi, mon frère, mon cousin contre l'étranger ». Ça veut dire que nous avons une vision d'État, de constitution, d'armée. Et en fait, à l'intérieur de cela, vous avez des logiques de fidélité, de subordination liées au passé. Et puis, vous avez la corruption qui est omniprésente. Et c'est vrai que du côté de l'OTAN, le grand objectif des pays qui étaient présents quand l'OTAN était en force à 140 000 hommes, c'était de former l'ANA, la nouvelle armée afghane, la police, etc. Notamment en essayant d'éviter les constructions ethniques. Tout à l'heure, on voyait dans le reportage un officier que je pense être à Zara, compte tenu de son type, qui est un chiite, qui ressemble un peu aux Alaouites de Syrie. Entre parenthèses, c'est pour ça que vous avez des milices à Zara afghanes qui combattent en Syrie aux côtés de leurs frères chiites, etc. Donc, ce qui a été fait quand les Français, les Britanniques, les Américains y étaient en masse, c'est notamment d'avoir à l'intérieur des kandaks, des bataillons afghans, des soldats qui étaient embedded, qui étaient présents avec eux. Et ça permettait, par cette solidarité, parce que ce sont des structures tribales où la relation interpersonnelle est très importante. Et si moi je suis afghan, vous, Fabrice, officier français, vous vivez avec moi, vous me formez, vous m'aidez, je ne vais pas vous trahir, même si mon cousin est dans le groupe taliban d'en face, et je ferai en sorte de vous préserver. À partir du moment où vous retirez cette présence, ce qu'on appelait le mentoring, là, à ce moment-là, l'Afghanistan traditionnel corruption, la peur, les bakchiches, etc. revient. Vous le savez, il y a des articles dans Le Monde remarquables qui ont été sortis, les grades de généraux s'achètent, et les généraux ne commandent pas. Et déjà, quand j'étais en Afghanistan, on voyait ça auprès des formateurs français, américains, etc., qui disaient, ben, tout d'un coup, on voit débarquer un capitaine qui sait rien faire, mais c'est le cousin de la tante de Bidule Machin qui a payé son grade, etc. Mais la présence des soldats français bloquait ça, parce que les Afghans qui faisaient le boulot, qui étaient présents, protestaient, et à ce moment, et avaient une capacité de passer par au-dessus, par l'OTAN, en disant non, c'est pas acceptable, parce que ça met en danger nos soldats. Vous avez en a retiré une grande partie de cela, mais c'est un peu le tonneau des Danaïdes, l'Afghanistan, c'est pour ça que je suis pas capable de répondre à la question de Vincent.
Vincent et je, les talibans qui, ce vendredi, ont mené leur vaste offensive de printemps, comme ils le font chaque année, vous allez nous dire en deux mots ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Est-ce qu'on négocie aussi un moment avec eux? Les Russes voulaient qu'on négocie avec les talibans, pas les Américains.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a une préfiguration de cette réalité-là. C'est que vous prenez par exemple la province du Helmand, qui est la province principale de production du pavot.
L'opium, le pavot.
Deux récoltes par an.
Ils ont déjà instauré, et ils communiquent là-dessus de manière explicite, ce qu'ils appellent leur système de justice sociale, leur système de sécurité. Donc préfiguration d'un État conforme à leur propre fantasme ou à leur vision du monde. Bien. Deuxième phénomène inquiétant, si on va maintenant vers l'Est, province du Nangarhar, vous avez l'apparition d'une branche afghane de l'État islamique.
Exact.
Voilà. Qui s'appelle État islamique, donc Daesh Khorasan. Bien.
Là où il y a la grosse bombe américaine qui a été balancée il y a une quinzaine de jours, c'est ça?
Dans le même secteur, flanc oriental du pays. Et vous avez d'ailleurs eu, il y a quelques jours, deux soldats américains qui ont été tués lors d'une opération conduite par cette filiale, cette branche afghane. Donc, vous n'avez pas seulement le cauchemar des talibans.
C'est quoi? C'est la base de repli. Ils sont plus faibles en Syrie, en Irak. Ils se replient, ou alors sont des groupes locaux djihadistes.
Là, pour le coup, ça fait partie de ces circulations de repli tactique. C'est-à-dire, il y a trop de difficultés opérationnelles pour
Asie centrale.
Absolument. Il y a des créations de foyers autonomes qui se réclament de cette idéologie. Donc, c'est vrai que on n'est pas du tout dans l'échec ou la réussite d'une forme de méthodologie contre-insurrectionnelle. On est dans une réalité politique et militaire qui échappe en réalité. Et cette inaptitude à convaincre les cœurs et les esprits, du fait notamment du phénomène répulsif de corruption qui a été dépeint par Pierre Servan.
Donc on ne peut pas discuter avec eux? Il faut discuter avec eux ou pas?
Avec les talibans? Moi non.
Pierre Servan. J'aimerais qu'on parle de la Syrie.
Pas avec les talibans. Sur Daesh, vous savez qu'ils ont mené une attaque contre un hôpital aussi qui a été très meurtrier. On retrouve les mêmes problèmes de corruption. C'est-à-dire qu'ils avaient même des médecins
ils sont rentrés
qui étaient à l'intérieur, etc.
Il y a une cinquantaine de morts, là.
Et plutôt en réduction. Non, on ne discute pas avec les talibans, parce que c'est leur réoffrir une plateforme pour Daesh aujourd'hui, voire un retour d'Al-Qaïda en force. Donc là, ça ne peut pas fonctionner dans ce sens-là, à mon avis.
Alors, la Syrie, justement, Tabqa, on est dans le nord-est du pays. C'est un barrage, c'est aussi une ville, fief de l'État islamique. On est à 60 km de Raqqa, vous savez, la pseudo-capitale de Daesh, de l'État islamique. C'est le verrou vers Raqqa. Pierre Servan, un mot justement. Cette offensive menée par les forces démocratiques syriennes, ces forces arabo-kurdes.
Alors je dirais pas c'est le verrou, s'il y en a plusieurs. Oui. On a vu des Erzor qui est un peu plus au sud-est. Mm-hmm. Mais c'est une base importante. Enfin, c'est une place importante. C'est effectivement un barrage. Et puis il y a un aérodrome militaire extrêmement important, qui est dans un état lamentable. Mais à mon avis, les Américains qui ont poussé à cette, qui ont accompagné la reprise par une coalition kurdo-arabe.
Les Américains qui soutiennent ces forces-là,
qui par ailleurs, de temps en temps, se font frapper par les Turcs, ça s'est passé récemment.
Ont
besoin aussi de cette plateforme. Ils ont la capacité, à mon avis, avec le génie de l'air, c'est-à-dire ceux qui font les travaux d'infrastructure, de remettre en état cette base, de façon d'abord à éviter une série qui est la base turque, compte tenu des récents événements et la tournure des événements en Turquie. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est à 60 km de Raqqa. Quand vous avez, pour la reprise d'une ville, une base arrière où vous pourrez mettre des infrastructures et des plateformes de décollage, hélicoptères, avions de combat, etc., ça vous donne une main très très forte. Donc là, on est vraiment dans le plan que Trump semble avoir validé à son arrivée. Il y avait différentes hypothèses. À mon avis, il veut absolument prendre Raqqa et être le président des États-Unis qui aura accompagné cette prise de Raqqa et reprendre la main sur un paysage qui est très dominé par les Russes et par les Iraniens en sous-main. Donc c'est une première étape très importante.
On le disait, Pierre Servan y faisait allusion, les forces kurdes syriennes visée donc en début de semaine par l'aviation turque. Il y a eu une vingtaine de morts donc au sol. La Turquie veut exister. La Turquie continue sa guerre contre ce qu'elle estime être une autre branche du PKK.
Pour Ankara, ce qu'on appelle les unités de protection du peuple kurde,
YPG,
qui sont la composante kurde de cette alliance kurdo-arabe dont le nom global est le Front démocratique, eh bien, c'est une sorte de faunée du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui cristallise évidemment l'exécration qu'on peut éprouver en Turquie pour tout ce qui ressemble à l'embryon d'une entité étatique transfrontalière. Donc l'idée,
d'autant plus que les cibles en Irak cette fois ont été aussi visées, les Peshmerga.
L'idée que, à la faveur donc notamment du soutien américain à ces FDS, ces forces démocratiques, eh bien, présumait-elle en tout cas, puissent d'une certaine manière faire la courte échelle à la concrétisation de ce vieux rêve kurde est insupportable. Et d'ailleurs, je souligne que Recep Tayyip Erdogan, le président turc, doit se rendre dans le courant du mois de mai et à Moscou et à Washington. Et il y aura du grain à moudre, il y aura des choses à se dire. Parce que la Russie a qualifié les attaques auxquelles vous venez de faire allusion contre donc ses alliés kurdes dans la lutte anti-Daesh d'inacceptables. Ah. Et on sait bien qu'évidemment ça crée aussi de très fortes tensions avec les États-Unis qui épaulent de manière tout à fait explicite, avec conseillers, avec armement, les forces en question.
Encore un mot sur la Syrie, on en a parlé aussi sur BFM Business. À l'origine, cette Syrie du départ forcé du directeur général de la Farge, Eric Olsen, départ annoncé en début de semaine. Au cœur de la tourmente, il y a l'affaire de l'usine syrienne du groupe qui a continué son activité pendant la guerre civile, la filiale locale du groupe qui aurait versé donc des commissions, on parle de 250 000 dollars, c'est BFM Business qui vous donnait ces infos donc en début de semaine, Mathieu Pechberti, la filiale locale du groupe qui a versé des commissions à des rebelles proches de l'État islamique pour poursuivre l'activité du site. Il s'agissait de transporter des marchandises par des routes bloquées par les rebelles en direction de l'usine. Alors, il ne faut pas exclure que derrière, il y a aussi une sorte de règlement de compte aussi dans le cadre du mariage entre la Farge et Olsen. Mais au-delà de ça, est-ce que la Farge est la seule, justement, Vincent Hugeux ? Parce que pendant longtemps, le commerce, il était vivace entre le territoire contrôlé par Daesh et la Turquie. Le pétrole, le textile, le ciment, voilà, par exemple.
D'abord, il faut souligner un phénomène. Eric Olsen, qui est un franco-américain, qui avait été évidemment porté à la tête de l'ensemble pour orchestrer la fusion entre le français Lafarge et le suisse Olsen, à en juger par ce que dit le conseil d'administration décisif, n'est ni responsable ni informé.
C'est bien de le rappeler.
Lui-même dit qu'il fait cela par souci d'apaisement. Au fond, il s'agit de déminer, de désamorcer la bombe. Mais en même temps, les hautes sphères de la maison admettent qu'il y a eu des comportements, des décisions et des mesures inacceptables, je les cite. Bon. Et c'est quoi, plus précisément encore, c'est qu'apparemment, et ceci n'est, semble-t-il, pas contesté, des émissaires, et c'est là où j'en viens à votre question, des émissaires ont été mandatés pour aller discuter des possibilités de poursuivre l'exploitation de cette cimenterie qui a fait l'objet d'un énorme investissement de la maison mère, puisqu'en réalité, c'est une cimenterie qui était hors d'usage depuis 2007. Il y a eu 3 ans de travaux et ça a été le plus gros investissement étranger dans la Syrie d'aujourd'hui, de l'époque. Et il y a une sorte, à un moment d'aveuglement, on ne se rend plus compte de la portée non seulement immorale des arrangements en question, puisque non seulement on négocie aussi quand même l'achat de pétrole brut raffiné
tout juste
par l'État islamique. Ça fait quand même beaucoup. Le dossier est extrêmement lourd, soyons clairs. Et on ne mesure pas, d'abord sur le plan, encore une fois, moral, mais même indépendamment de toute considération éthique, c'est absolument contre-productif pour la maison.
On va continuer 7 jours dans le monde, dans un instant, toujours avec Vincent Hugeux, toujours avec Pierre Servant. On sera en Afrique avec Blaise Compaoré, jugé par coutumas au Burkina Faso, c'est l'ancien président. Et puis Sanabré, perpétuité confirmée donc contre l'ancien président du Tchad. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, la justice en Afrique pour terminer 7 jours dans le monde, donc avec Vincent Hugeux, bien entendu, qui anime son blog L'Afrique en face, hébergé par L'Express, justement, où il est grand reporter. Pierre Servant également avec nous, spécialiste des questions militaires, auteur des Présidents et la guerre 1958-2017. Alors oui, le Burkina Faso, pour commencer, avec l'ouverture et le renvoi assez rapide, jeudi, du procès historique pour juger des ministres, oui, avec quasiment tout le gouvernement, du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré, lequel, lui, est jugé par contumace puisqu'il est réfugié en Côte d'Ivoire. Ils sont poursuivis après la répression sanglante de l'insurrection populaire il y a 2 ans qui avait conduit justement à la chute du pouvoir. Il y avait une 30aine de morts. Oui. Et puis, la même semaine également, dans un autre genre et une toute autre échelle, bien entendu, on va faire la différence avec Vincent dans un instant, Dakar, condamnation définitive à la prison à vie pour Hissène Habré, c'est l'ancien président tchadien pour crime contre l'humanité. Son régime, c'était dans les années 80, qui s'était livré à une sévère répression. Cette fois, il y avait eu 40 000 morts. Alors Vincent Hugeux, donc, on voit des anciens chefs d'État poursuivis ou condamnés en Afrique. Est-ce que ça devient la règle pour ceux qui s'assoient sur la loi ?
Alors, première leçon, plutôt encourageante, la fin de l'impunité. Très longtemps, les potentats africains étaient persuadés qu'ils étaient hors d'atteinte. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant, si on affine nos regards, il y a la fameuse Cour pénale internationale de l'AE.
Oui.
Aujourd'hui, vous avez par exemple un Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, qui passe ses nuits dans une cellule du centre pénitentiaire de Scheveningen et qui est jugé. Bien. Vous savez à quel point la doctrine, mais surtout la tactique de la CPI est critiquée en Afrique, où on considère qu'elle s'acharne sur les Africains parce qu'ils sont d'une certaine manière plus accessibles et en oubliant d'incriminer, de poursuivre, de lancer des mandats internationaux contre d'autres tyrans de la planète.
Un certain nombre de pays africains, d'ailleurs, se sont retirés de la CPI justement pour manifester ce procès d'intention fait contre les Noirs, clairement. Voilà.
Bon. En tout cas, on ne va pas entrer dans le détail de la validité ou pas de cette perception. Elle est là, elle est présente dans l'intelligentsia africaine, dans les jeunes, etc. Or, vous avez là, effectivement, un phénomène intéressant. Alors, certes, le procès est renvoyé au 4 mai, mais vous avez quelque chose qui ressemblait quand même à un conseil des ministres dans le box, où la quasi-totalité de ceux qui avaient été présents lors d'une réunion du gouvernement dans laquelle on avait validé la répression, dont vous avez évoqué les effets fatals à l'instant, ont été décidés. Eh bien, le président Blaise Compaoré, et là, chercher la femme, on y revient toujours, mes first ladies, il se trouve qu'il a une épouse qui est ivoirienne, en tout cas, qui a parmi ses nationalités ivoiriennes, il a lui-même demandé la nationalité de la Côte d'Ivoire à son ami Alassane Ouattara, il réside à Abidjan après avoir vécu à Yamoussoukro, la capitale politique, pendant quelques mois, etc., etc. Lui est aujourd'hui hors d'atteinte, il ne sera pas extradé, soyons clairs. Mais, symboliquement, ça n'est pas anodin. Et puis, j'ajoute, à propos du cas tchadien, c'est encore plus intéressant. Parce que là, vous avez ce qu'on appelle les chambres extraordinaires africaines. C'est-à-dire, vous avez une juridiction qui est quasiment créée ex nihilo, qui est une juridiction continentale, qui ne peut pas être donc soupçonnée de biais impérialiste, néocolonialiste, etc., même si une partie du procès qui est fait à la CPI est injuste et instrumentalisée, peu importe, et donc et qui va au bout du processus. C'est-à-dire que là, en fait, ça n'était que la confirmation de la condamnation à perpétuité pour crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de torture, etc. Et ça, c'est peut-être la préfiguration de ce qui fonctionnera demain et qui, surtout, est en train d'instiller dans l'esprit des despotes plus ou moins bien élus, voire pas élus du tout, l'idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on s'en sortira pas nécessairement avec un exil négocié. Il y aura un cas, et je termine là-dessus, un cas intéressant, c'est celui du président gambien, Yahya Jammeh, qui est parti en exil chez son ami, le grand démocrate, second degré évidemment, Teodoro Obiang-Nguema en Guinée équatoriale, et vous avez aujourd'hui des juristes en Gambie qui se disent « comment peut-on faire en sorte qu'il soit rapatrié pour être jugé ici devant ses compatriotes. »
C'est celui qui s'accrochait à son pouvoir après l'élection qu'il prétendait avoir gagnée, puis finalement, donc, il est vite parti. Pierre Servant.
Oui, juste un mot, parce que vraiment, en écoutant Vincent Hugeux à propos du Tchad, dans mon livre « Les présidents et la guerre », vous apercevez que le Tchad est un fil rouge de tous les présidents.
Bien sûr.
C'est un continuum. Et juste
spécialement avec l'opération Manta de François Mitterrand.
Et puis, il y a un épisode pas très connu que j'explique et que je détaille dans le livre avec des conversations confidentielles entre le chef d'état-major des armées, le général Georges Lain à l'époque, et le président Sarkozy, à un moment où Idriss Déby est à deux doigts de tomber.
Il y a 2008. Janvier-février 2008.
Exactement. Donc, le général, je le révèle dans le livre, le général Georges Lain appelle le président Sarkozy en disant, Idriss Déby, c'est fini. C'est fini, il va tomber. Et puis Idriss Déby, c'est pas fini, puisqu'il reste, il se met en treillis, il combat. Les Français lui donnent du renseignement pour bloquer les vagues d'assaut à l'extérieur. Mais il y a un point qui est très intéressant, et Vincent Hugeux connaît ça par cœur. Idriss Déby dit à ses proches, et notamment à un agent de la DGSE, qui restera présent à ses côtés tout le temps. Et c'est lui d'ailleurs qui appellera après Georges Lain, alors qu'il y a une réunion à l'Elysée où on dit Idriss Déby c'est fini, qu'est-ce qu'on fait, qui appelle en disant je suis aux côtés d'Idriss Déby, il est toujours là, il a gagné, etc. Et Idriss Déby dit à cet agent de la DGSE, dans N'Djamena, il y a un marché qui est très très couru, très connu, qui s'appelle Hissène a fui. Hissène Abré a fui. Je ne veux pas qu'il y ait demain un marché qui s'appelle Idriss a fui. Ouais, c'est intéressant sur la psychologie. C'est rare dans les chefs d'État qui se transforment en chefs de guerre et qui résistent.
C'est dans les présidents à la guerre signé Pierre Sermon. Encore un mot, tout n'est pas parfait encore. Vous avez cité le cas de ce président gambien. Je pensais également au président soudanais, Omar el-Béchir, poursuivi par la CPI. Il est toujours tranquillement à Khartoum, chez lui. Hein.
Et c'est là où la critique de la CPI comme un outil néocolonial a quelque chose de vain. C'est-à-dire que vous avez un Omar el-Béchir qui, pour d'assez bonnes raisons, et notamment pour la répression des mouvements insurrectionnels dans les provinces du Darfour, a lui aussi été visé par un mandat d'arrêt international, etc., etc. Or, il a pu se balader. C'est même devenu un peu, en quelque sorte, l'échelle du défi. Et par exemple, vous avez son accueil en Afrique du Sud, qui a des effets aujourd'hui en politique intérieure terrible, parce qu'il y a une commission d'enquête qui a été nommée, et qui montre à quel point la défausse que Jacob Zuma, le président sud-africain, très critiqué par ailleurs pour d'assez bonnes raisons, a invoqué, était absolument indéfendable sur le style « on ne l'a pas vu partir bon, ». Donc voilà, donc vous avez ce jeu. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la Gambie, qui faisait partie des trois pays qui avaient annoncé leur retrait de la CPI, depuis la chute de Yahya Jammeh, évidemment, ont rapporté cette décision. Et même en Afrique du Sud aujourd'hui, vous avez un débat sur la pertinence de ce retrait. Parce qu'on peut se retirer pour de bonnes raisons, mais on peut aussi se retirer pour d'exécrables raisons, notamment celle de ne pas avoir un jour à rendre des comptes à la juridiction en question, la CPI.
Bon, mais ça va mieux quand même.
Oui, ouais. En tout cas, il y a une lueur d'espoir, et il faut vraiment que cette logique des chambres africaines extraordinaires, celle donc qui a siégé à Dakar dans le cas... Il ne faut pas que ce soit un coup, ouais. Et on passe à autre chose. Il faut que ce soit un peu, en quelque sorte, la préfiguration de ce qui pourrait être institutionnalisé demain.
Bon, merci. Merci Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express avec son blog, hein, L'Afrique en face. Bien entendu, on rappelle, eh bien, en attendant le prochain avec beaucoup d'impatience, le roman vrai des Premières Dames. Voilà, réédition en poche, c'est Reines d'Afrique, justement. Et puis l'actualité, évidemment, plus proche de nous, à une semaine du second tour, pour voir comment les présidents de la Ve République se sont comportés vis-à-vis de la guerre. Justement, c'est les présidents et la guerre, 1958-2017, c'est signé Pierre Servan. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Vivement le week-end prochain sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.